Jacques P. Tremblay, bonjour.
Bonjour, madame.
On vous joint du côté de Québec. Jacques Tremblay, vous êtes chercheur en neurosciences au Centre hospitalier de l'Université Laval. On est là avec vous pour que vous nous aidiez à mieux comprendre la dystrophie musculaire de Duchenne et surtout les recherches en cours. Et ce qui est intéressant, c'est que Marie-Catherine et vous vous connaissez, on ne savait pas ça. Vous vous êtes rencontrés il y a quelques jours. Marie-Catherine, je pense que vous êtes allée rencontrer Jacques pour lui offrir de l'aide pour sa recherche.
Lundi, avec un autre parent qui vit la même situation que moi, on est allé lui remettre un don d'une levée de fonds que le parent avait faite pour la fondation. Donc, on est allé le rencontrer et gentiment, il nous a expliqué toutes les recherches. On a visité le labo. C'est le fun de voir la proximité. Et des fois, on a l'impression, quand tu n'es pas dans ce domaine-là, des chercheurs, tu ne peux pas parler à ça. Puis finalement, on peut visiter le labo, on se rend compte, on se parle, puis c'est pas sorcier.
Oui. Jacques P. Tremblay, cet apport-là de parents qui vivent avec un enfant qui a la dystrophie musculaire, ça doit être extrêmement signifiant pour la suite de vos recherches.
En effet, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser à la dystrophie musculaire de Duchenne. Dans le temps, c'était le Téléthon de Michel Louvain. Et j'avais rencontré une famille de patients, avec un jeune patient qui avait demandé à sa mère, quand je vais être plus vieux, je ne serai pas en chaise roulante. Mais ce n'est pas parce qu'il venait de constater qu'un de ses amis était maintenant rendu en chaise roulante. Et la mère avait dit, ben, il y a le docteur Tremblay qui fait de la recherche là-dessus. Et à ce moment-là, je n'étais pas encore commis à travailler autant que ça sur la dystrophie musculaire de Duchenne, mais ça m'a vraiment capturé à ce moment-là.
Oui. Avez-vous l'impression qu'à travers les années, il y a des avancées scientifiques qui vous permettent de mieux comprendre cette maladie-là?
Oui, on la comprend beaucoup mieux et surtout nos espoirs de traitement augmentent d'année en année. Il y a des développements fantastiques. Il y a des essais cliniques qui sont en cours avec quelques médicaments. L'atalurène, qui est un médicament qui peut passer des codons d'arrêt qu'il y a dans certains gènes. Il y a le Sodexon qui a été poussé en essai clinique jusqu'en phase 3. Et surtout, dans mon laboratoire, donc, on travaille sur une nouvelle technologie qui s'appelle CRISPR-Cas9. C'est une technologie fantastique qui permet de couper des gènes et de les modifier. Et c'est une technologie qui n'existait pas il y a 5 ans. Et en fait, je dis tout le temps aux gens, je fais actuellement des choses que je rêvais pas de faire il y a 5 ans.
Ouais. Est-ce qu'on pourrait espérer que dans un certain nombre d'années, évidemment, c'est difficile de se commettre sur un nombre d'années exactes, on pourrait arriver à traiter cette maladie, la dystrophie musculaire de Duchenne, Jacques Tremblay?
C'est vraiment mon espoir. Écoutez, on a des résultats actuellement sur les souris qui pourraient nous mener à faire un essai clinique. La principale difficulté, c'est le financement de ces essais cliniques-là.
Oui.
Faire un essai clinique sur une dizaine de patients Duchenne avec la technologie CRISPR, on parle facilement de 3, 3,5 millions de dollars. Et c'est ça qui coûte très cher parce que pour les traitements que j'envisage, il faut livrer les composants du système CRISPR avec des virus qui sont des adeno-associated virus. Et ces virus-là doivent être fabriqués dans des bonnes conditions de fabrication. Et au Canada, pour l'instant, il n'existe aucune facilité pour produire ce genre de virus-là pour des essais cliniques. Ça fait au moins 2-3 ans qu'on approche le gouvernement du Québec pour investir dans une facilité pour produire de tels vecteurs viraux. Ça serait utile non seulement pour la dystrophie Duchenne, mais ça serait utile pour plusieurs, en fait, un très grand nombre de maladies héréditaires qui sont aujourd'hui à des mutations dans des gènes. Et donc, la façon de traiter ces maladies héréditaires-là, c'est de faire de la thérapie génique. Et pour faire de la thérapie génique, on a besoin de vecteurs viraux produits dans des bonnes conditions de fabrication. Et malheureusement, comme je le disais, au Canada, aucun endroit pour produire ce genre de vecteurs-là.
Quoi?
Et donc, on essaie d'avoir un endroit possible à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, Montréal. Ils ont des salles déjà disponibles, ils ont des équipes en place, mais on n'a pas l'équipement, il faudrait... Donc, on demande au gouvernement du Québec de façon répétitive. On est en train de bâtir un plan d'affaires. On a rencontré à plusieurs reprises des gens du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation pour essayer de leur faire admettre ce projet-là. C'est, C'est la principale limitation à passer à des essais cliniques, c'est le coût de fabrication de ces vecteurs viraux-là, le coût de faire l'essai clinique lui-même et tout ça, comme je vous disais, le principal obstacle à des développements de thérapie, c'est le financement de la recherche.
Marie-Catherine, croyez-vous que, vu que c'est une maladie qui n'est pas contagieuse, c'est encore plus long avant d'obtenir du financement? Tu sais, si c'était une maladie qui ferait peur à plein de gens, comme le cancer, par exemple, bien, c'est pas contagieux, mais tout le monde peut l'attraper. Croyez-vous que c'est un frein?
En effet, il y a moins d'intérêt. Vous savez, quand il y a eu des maladies comme le sida ou comme le zika, ou toutes ces maladies qui sont infectieuses et qui se répandent très rapidement, les gouvernements vont en effet mettre des sommes importantes d'argent pour faire de la recherche là-dessus et arriver avec des vaccins, etc. Mais dans le cas des maladies orphelines, malheureusement, et c'est la plupart des maladies héréditaires sont des maladies orphelines, touchent un très faible pourcentage de la population. Mais à cause de ça, on dirait qu'on sent pas le besoin de mettre de l'argent là-dedans. En fait, dans des pays comme la France, les États-Unis, les législateurs ont reconnu l'existence des maladies orphelines. Mm-hmm. Ils ont consacré des budgets spéciaux à ça. Mais ici, au Québec et au Canada, on n'a pas encore de législation qui reconnaît que c'est un problème. Et pourtant, vous savez, au Québec, on a, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, entre autres, oui, on a beaucoup de maladies héréditaires à cause qu'il y a un nombre limité d'ancêtres qui sont venus de la France. Certains étaient porteurs de ces maladies-là. Donc, à cause de ça, on a une bonne prépondérance de différentes maladies héréditaires. Et malgré tout, le gouvernement du Québec n'a jamais fait une législation reconnaissant que c'est un problème pour la population du Québec. Et une fois qu'on a reconnu que c'est un problème, bien, il faut consacrer des sommes à ce genre de recherche-là. Et
ouais, malheureusement, c'est le nerf de la guerre. Une dernière question, Marie-Catherine, vous aviez quelque chose à ajouter?
Bien, j'ai même plus de questions. Toutes les questions que j'avais décrites sur mon papier, M. Tremblay les a répondues sans même que je les pose.
Oui, mais je pense que vous touchez quelque chose d'extrêmement important, Jacques P. Tremblay. J'en ai parlé d'ailleurs avec Gaëlle Ouellette, qui est la directrice générale du regroupement pour les maladies orphelines du Québec. Le nerf de la guerre est dans cette reconnaissance des maladies rares. Comment on les définit? Comment on les aborde, comment on s'articule pour mieux les traiter et faire la recherche. Est-ce qu'il y a des démarches qui sont entamées pour qu'on repense la façon dont on aborde les maladies rares ici au Québec?
Écoutez, c'est, comme je l'ai mentionné, c'est une démarche qu'on essaie de poursuivre, et Gaëlle Ouellette aussi poursuit ce genre de démarche-là depuis plusieurs années. Et malheureusement, toutes les fois qu'on réussit peut-être à progresser dans le gouvernement, on est rendu au sous-ministre, etc., pouf, on a des élections, puis on commence à zéro en bas de la table. Donc, c'est notre expérience à la fois à Gaëlle Ouellette et moi que c'est difficile. On a fait des pétitions au ministre de la Santé, des pétitions signées par des chercheurs, des pétitions signées par des patients. Et malgré tout, on n'a pas réussi à avoir de résultats.
Mais avec des gens comme la famille de Marie-Catherine et la Fondation La Force, vous avez un très, très bon soutien. On peut le constater. On souhaite, bien sûr, qu'il y ait d'autres familles qui aient envie de continuer à se soutenir et à s'intéresser aussi. Je pense qu'il y a aussi l'intérêt à la cause qui est assez c'est important. Jacques P. Tremblay, vous êtes chercheur en neurosciences au Centre hospitalier de l'Université Laval. Merci de nous avoir un petit peu mieux défini les grands enjeux qui entourent la dystrophie musculaire de Duchenne.
J'aimerais juste rajouter que sans des fondations comme La Force et d'autres fondations qui supportent la recherche sur les maladies rares, ben, la recherche n'avancerait pas beaucoup parce qu'actuellement, les subventions du fédéral qui sont données par les Instituts canadiens de recherche en santé sont extrêmement difficiles à obtenir. Les chercheurs canadiens sont en très grande difficulté actuellement pour leur renouvellement d'octroi. Et il est temps que le gouvernement canadien augmente les sommes consacrées à la recherche. Ça a été énormément diminué sous le gouvernement Harper. Il est temps qu'on change de direction.
C'est noté. Jacques P. Tremblay, merci beaucoup.
Au revoir.